Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
C'est l'histoire d'une femme qui se fait la malle. Une de ces histoires qu'on vous pose là, au creux de l'oreille, et qui attire votre attention, parce que cette histoire, elle vous parle, ou que la voix qui la raconte, elle vous emporte. Vendredi 17 février, au Café Bibliothèque de Chabrillan, Claire Bartoli et Lionel Lérondel vous proposent de monter à bord de l'histoire de Dolly Buy ou la femme Artichaut. Au conte Claire et à la musique Lionel. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, qui c'est cette femme, Dolly Buy ?
Dolly Buy, c'est une petite femme qui se met à avoir froid parce que son chez-soi chez nous s'est vidé de tout. Des mots doux, des baisers dans le cou. Alors, elle s'est mise à avoir de plus en plus froid. Et comme elle a beau courir d'un radiateur à l'autre, elle n'arrive pas à calmer ce froid, elle décide de partir. Et elle n'a pas envie d'emmener de valise pour garder les mains libres, donc elle enfile tout ce qu'elle veut emmener, toute sa garde-robe, et elle devient une boule d'étoffe multicolore. Et elle part dans la ville, et là, elle erre et elle fait des tas de rencontres. Il lui arrive tout un tas d'aventures. Elle rencontre à la fois des personnages contemporains et en même temps des personnages plutôt imaginaires. Et voilà, elle fait tout son périple.
Alors, Dolly Buy ou la femme artichaut, c'est un conte moderne que vous avez écrit il y a à peu près 10 ans, Claire. Comment elle est née de votre imagination, cette Dolly Buy, d'où elle vient ?
Alors là, d'où elle vient, eh bien, je n'en sais pas trop rien, parce qu'elle est sortie... Moi, j'écris, donc j'aime bien... inventer des personnages qui sortent un peu de ce qu'on fait tous les jours et qui ont une manière plutôt poétique de renverser les situations, de se mettre parfois en danger, de regarder les choses, disons, de manière différente. Et ce personnage, déjà, a une allure très bizarre, donc est obligé de se confronter au regard des gens. Et puis elle regarde aussi, elle découvre aussi la ville avec son envers, puisqu'elle n'a plus de lieu où habiter, ni le jour ni la nuit. Donc elle cherche ces endroits où pouvoir habiter, et elle erre dans cette ville qui a déjà tout un tas de gens qui errent aussi.
C'est un personnage féminin que vous avez choisi.
Oui.
Pourquoi féminin et pas masculin ?
Parce que je pense que pour moi, c'est peut-être plus facile d'entrer dans un personnage féminin, mais ce qui n'empêche qu'elle rencontre tout un tas de personnages masculins qui racontent aussi leurs aventures. Mais ouais, je pense que j'ai une écriture sans doute plus féminine au départ.
Vous écrivez des contes ?
J'écris des contes, mais j'écris aussi de la poésie, j'ai écrit des essais, j'écris un peu de théâtre aussi. Et puis, disons que dans mon histoire de conteuse, j'ai aussi raconté beaucoup de contes traditionnels que je raconte à ma manière. J'écris des introductions, je les relis entre eux. Mais j'écris des petites histoires, des menteries aussi, des histoires menteuses.
Des histoires menteuses, c'est bien mystérieux. Qu'est-ce que c'est qu'une menterie ?
Une menterie, c'est une histoire qui ment à chaque moment. C'est quelqu'un, un homme qui nage comme un oiseau. C'est la nuit qui est tombée, mais personne ne l'a ramassée. C'est Voilà. Moi, c'est plutôt des histoires menteuses qui existent hein, en général dans les contes, qui sont des petits moments des contes. Mais bon, moi, je les écris à ma manière. Voilà, un peu poétique. Mais c'est des histoires qui mentent tout le temps.
J'ai jamais entendu parler des menteries comme ça. Je ne suis pas spécialiste du conte en même temps. Alors, ce spectacle d'Olibulli ou la femme artichaut, je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez écrit il y a une dizaine d'années.
Oui.
Vous le jouiez à l'époque avec une accordéoniste. Et là, depuis à peu près un an, vous avez fait la rencontre de Lionel Lérondel, qui est là et qui va jouer de l'accordéon dans ce spectacle. Mais je crois pas seulement de l'accordéon, vous êtes musicien.
Oui, oui. Joueur de son.
Joueur de son.
Joueur de son, plutôt.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ces sons?
Ben, joueur de son, parce que c'est plus, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus jouer sur des sonorités, des timbres, des rythmes, plus que de jouer des morceaux de musique, je dirais, comme on peut le faire dans les conservatoires. Voilà, c'est plus poser un petit peu des ambiances, des sons sur, et puis j'adore poser tout ça sur des contes, sur des mots.
Et comment s'est fait la rencontre entre vous deux? Alors, entre la conteuse et le musicien joueur de son?
Eh ben, on s'est rencontrés dans un lieu du conte, qui s'appelle Le Coq qui disserte, à Recoubeau, qui est tenu par Ghislain Papin, qui est conteur. Voilà, et qui a fait qu'on a pu se rencontrer avec Claire, puisque Claire lui avait demandé s'il connaissait quelqu'un, un musicien.
Moi, je cherchais un accordéoniste.
Voilà. Donc, moi, il se trouve que je joue un petit peu l'accordéon. Voilà. Donc, j'ai relevé le défi, quand même. Mais surtout, j'ai beaucoup aimé le texte de Claire. Donc je me suis accroché, j'ai essayé de trouver comment j'allais mettre mon son à moi, ma façon de jouer à moi. Parce que la musique qui existait au départ est jouée par une accordéoniste qui joue vraiment très très bien. Donc c'était pour moi pas évident, est-ce que je fais pareil, est-ce que je reprends ces musiques ou pas. Donc j'ai mis un moment, j'ai dû mettre 3 mois avant de faire le choix. Il y a une partie où je reprends la musique existante, il y a des parties où c'est mes musiques à moi. Et puis il y a pas seulement l'accordéon après au niveau musical, il y a d'autres instruments.
Et puis il y a des moments chantés aussi, voilà. Donc il y a des petites ritournelles, donc là ça arrive qu'on les chante tous les deux, enfin voilà.
Et qu'est-ce qui vous a séduit dans le texte, dans l'histoire de Claire, dans cette histoire de d'Olibulli?
Sa poésie, son humour, quelqu'un me parlait de Claire, il m'avait défini Claire comme une boule de poésie pure, et ben voilà, c'est ça quoi. Elle m'a fait tendrement rire hein, en fait.
Ah, c'est
voilà.
Joli. Et comment vous avez accueilli, vous, Claire, la patte de Lionel dans votre spectacle?
Ben, Lionel, il est très à l'écoute et il est et donc moi j'ai bien aimé ses recherches sur différentes sonorités et la manière de proposer des sons, des mélodies parfois, et tout de suite, disons que la mayonnaise a bien pris. Et puis c'est vrai que il y a tout de suite une confiance, entre nous et une liberté aussi de se dire les choses et une attention très très présente de ce que fait l'un, de ce que fait l'autre.
Oui.
C'est devenu une histoire d'amitié. Entre vous?
Oh, ben oui.
Oui, oui, oui. Complicité, c'est sûr.
Complicité.
Complicité, une amitié, oui. Un respect mutuel, je pense. J'ai beaucoup de respect pour ce que fait Claire, de ce qu'elle propose. Ouais, c'est... Voilà, bon, c'est autour de ce conte, de cette histoire. Hein. Mais pas que. Voilà.
Après, tu vas m'abandonner, c'est ça?
Voilà.
Non. Tu vas me lâcher comme une...
Non.
Je vous propose, pour donner envie aux auditeurs, de venir vous voir vendredi 17 février au Café Bibliothèque de Chabrillon. Je vous propose de nous proposer un avant-goût de ce spectacle. C'est en fait le début du spectacle, donc avec Lionel à l'accordéon, et puis on entendra la voix de Claire, la conteuse. On vous écoute.
Thank you.
Dolibully est partie. Elle est partie, Dolibully, de son chez-soi chez nous. Elle est partie, Dolibully, de son chez-soi chez nous. Parce que son chez-soi chez nous s'était vidé de tout. Des mots doux, des baisers dans le cou, des sourires hirondelles. Il n'y avait plus que des sourires déglingués qui se cramponnaient à des souvenirs effilochés. Et puis elle s'est mise à avoir froid, Dolibully. De plus en plus froid. Elle avait beau courir d'un radiateur à l'autre, pas moyen de calmer ce froid galopant dans son sang. Alors elle décide de partir. Mais elle voulait pas emmener de valise pour garder les mains libres. Alors la solution, c'était d'enfiler sur elle tout ce qu'elle voulait emmener. Elle a plongé dans son armoire et elle a enfilé les trois quarts de sa garde-robe. Elle a commencé par les affaires d'été, sa petite robe bleue de soie, un, deux, trois pantalons, une, deux, trois jupes, des robes, sa grosse robe en laine, un, deux, trois manteaux. Et maintenant, Dolibully, elle est tout à fait ronde. Elle pourrait rouler plutôt que marcher. Elle a juste gardé au bout de ses gants mitaines des petits bouts de doigts pour caresser le vent. Et là-haut, entre ses trois chapeaux et toutes ses écharpes enroulées, on ne voit que ses yeux. Mais Dolibully, elle a des yeux arc-en-ciel, ouais. Et ça, des yeux arc-en-ciel, hein, c'est rare. D'ailleurs, elle les ferme souvent. Il ne s'agirait pas qu'un type d'Hollywood passant par là les remarque ses deux grands yeux arc-en-ciel et l'entraîne dans son sillage clignotant faire des trucs qu'elle n'a pas du tout envie de faire. Non, non, non. Elle veut marcher toute seule sur le fil de ses jours et de ses nuits. D'ailleurs, en fait, de fil, c'est plutôt une fille pelote, mais qui s'est jamais laissée tricoter.
Qu'est-ce qu'elle fuit, Dolibully, à part le froid?
Ben, elle fuit le froid de relations qui se déglinguent, de relations de couple. Voilà, et elle cherche un chemin, elle cherche des rencontres, elle se cherche aussi. Hein. Elle se cherche et c'est au fur et à mesure qu'elle va un peu plus se trouver, se connaître. Voilà, elle fuit les fausses relations, les trucs qui durent de trop. Et qui n'ont pas de raison de durer, peut-être.
C'est en partant ailleurs qu'on se trouve ? Ou qu'on se retrouve ?
Ben, disons que il y a des moments, oui, il faut partir. Il y a des moments, il faut aller à l'aventure. Il faut accepter de se mettre un peu en péril, en danger, de ne pas savoir où on va, qui on va rencontrer, ou où on va être, qu'est-ce que c'est que la nuit, qu'est-ce que c'est que d'être seul un moment, qu'est-ce que c'est de faire des rencontres très bizarres, et qu'est-ce que c'est que le fait d'avoir envie de danser dans la rue, d'avoir envie de chanter à côté d'un vieux type dans le métro qui a les yeux perdus dans le vague et une petite pièce qui tombe de temps en temps, qu'est-ce que c'est que l'envie de dire... un type qui vous demande qui vous êtes, qu'un numéro n'est pas un nom. Voilà. Envie de dire ce qu'on pense au moment où on le pense et puis envie de faire des rencontres étranges.
Pourquoi c'est une femme artichaut, Dolibully ? C'est dans le titre, Dolibully.
Bah parce qu'elle a enfilé toute sa garde-robe, donc elle est devenue une boule d'étoffe et de laine multicolore. Donc les gens la traitent d'artichaute, voilà, c'est à voir un peu, c'est un artichaut. Mais elle va au fur et à mesure perdre des feuilles, parce que parfois elle donne un manteau à une fille qui a froid, elle donne une écharpe à une statue qui parle et qui peut-être a froid sous la fontaine. Voilà, elle se déshabille au fur et à mesure de toutes ses aventures.
Lionel, tout à l'heure, vous définissiez comme joueur de son et vous disiez que vous aimiez les contes. Quelle est la place des contes dans votre vie ?
Oh, la place des contes dans ma vie. Bon, je crois qu'ils ont toujours été là. Hein. Je lisais beaucoup de contes quand j'étais gamin. Et puis, je suis quelqu'un qui suis toujours, toujours, toujours dans une histoire. À tel point que souvent, je pars, je ne me rends pas compte. Quoi. Ou je siffle tout le temps, ou je suis toujours dans une histoire, quelque part. Et le conte, pour moi, c'est justement c'est cet espace où on a une grande liberté, quoi. Tout peut arriver dans un conte. Hein. On peut inventer des personnages, on peut confronter une réalité à sa façon. Enfin, voilà, je crois que c'est pour moi, c'est un espace de liberté énorme.
Vous avez déjà écrit des contes ?
Oui, mais jamais publié. J'ose pas. Ça m'est arrivé d'écrire des contes, ouais. Surtout quand j'ai fait une analyse. Donc, quand on écrit des contes, on ne se rend pas compte des fois de ce qui passe de l'inconscient dans une histoire. Je pense que dans la femme artichaut, il y a des tas de choses qui peuvent être lues à différents niveaux. Hein, dans votre question tout à l'heure, la femme artichaut, on pourrait penser effectivement, on parle souvent d'un cœur d'artichaut par exemple. Hein. De Libulis, que c'est pas une femme comme ça qui a un cœur artichaut. Enfin, hein, on peut y mettre tellement de choses, je crois.
Non, elle n'a pas un cœur d'artichaut.
Ben non. Et non. Mais bon.
Lionel, votre façon à vous aujourd'hui de raconter des histoires, c'est de le faire avec des sons aussi.
Oui. Oui.
Comment les sons peuvent raconter des histoires quand il n'y a pas de voix ?
Mais c'est une ambiance aussi.
C'est possible parce qu'on ne peut pas le dire, justement. On ne peut pas dire comment un son peut raconter une histoire. Il faut l'écouter. Je crois que c'est... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Ce qui n'empêche pas l'émotion, la rêverie, tout ça, quoi. Mais justement, c'est cette possibilité de dire des choses sans les mots. Donc parler ailleurs qu'aux oreilles, quoi. Pas qu'aux oreilles, en tout cas.
Donc ça fait appel aux émotions, vous le dites, aux sensations,
ouais,
vraiment.
Tout à fait. Son. Tout à fait. C'est vrai que moi, quand Claire m'a fait écouter son histoire, j'ai d'abord pris le temps d'écouter. Et à chaque fois, quand je travaille avec des conteurs, je leur demande de m'enregistrer leur histoire. Et après, j'entre chez moi et j'écoute. Et je laisse venir tel mot, telle phrase, c'est quel son. Quel son qui me vient. Et des fois, j'invente des instruments pour une histoire particulière. Parce que le son, le ton de la voix, l'histoire, l'univers fait que ben, peut-être je vais inventer une flûte harmonique qui aura un certain son. D'autres fois, ça va être je vais bricoler une corde de guitare, je vais l'accrocher avec un porte-manteau pour faire un autre son. Enfin, voilà, c'est ça qui m'intéresse, quoi.
C'est votre truc de travailler avec des conteurs ?
Oui. Oui, et je travaille beaucoup aussi avec des personnes dites en situation de handicap. Pour moi, c'est un moyen, pareil, on crée un espace de liberté où la personne, quelle qu'elle soit, eh ben, va pouvoir exprimer des choses, des possibilités. Voilà. C'est...
Un espace de liberté aussi pour vous, Claire, le conte ?
Oui, le conte, c'est un espace de liberté, c'est un espace où on marche sur un chemin qui n'est pas celui de la raison, du pragmatique, mais qui entre dans un imaginaire qui nous rapproche aussi d'une parole très ancienne, finalement, parce que les contes étaient racontés de bouche à oreille, et il y avait les contes sacrés, il y avait les légendes, les contes... Il y a aussi les contes qui meurent parce qu'ils ne sont plus racontés. Et c'est un rapport aussi avec une partie de nous-mêmes qui est notre rapport avec la nature aussi. Avec parce qu'il y a beaucoup de métamorphoses dans les contes, des parties animales, voilà, et la nature. Il y a une phrase de Métrac que j'aime bien, qui dit, de Claude Métrac, qui dit... la nature rêve sur nous comme nous rêvons sur elle. Et ça, c'est vraiment l'histoire du conte, parce qu'il y a cette espèce de lien avec le profond, le cœur de ce qui est commun aussi à notre humanité, puisqu'on raconte des contes vraiment d'origines très différentes, que ça soit du Grand Nord. Moi, j'aime bien raconter des contes du Grand Nord. J'avais plutôt commencé avec les contes amérindiens parce que j'aime bien j'aime bien leur tradition, leur manière de voir le monde. Et voilà, il y a des contes qui viennent de plein d'horizons et finalement dans lesquels on trouve des points communs. Il y a toujours des pierres qui parlent voilà, la terre qui parle à l'eau qui parle au vent, l'eau qui parle aux pierres, etc. Et tout parle, tout murmure dans les contes. Il n'y a pas ceux qui parlent et ceux qui se taisent. Mais il y a aussi des silences, heureusement.
Alors, le conte, ça parle aux tripes ou ça parle au mental?
Faites une drôle de séparation, là, les tripes et le mental. Ça parle à la personne dans son entier. Ça parle à son cœur, à ses émotions, à sa sensibilité, parce qu'il y a... Il y a la musique des mots, il y a les mots qu'on choisit, il y a l'histoire qui vous emmène et qui vous emmène ailleurs et en même temps vous emmène aussi à vous-même. Ça parle à vraiment notre humanité, notre être dans son ensemble. Il n'y a pas de petits morcelages comme ça.
Je vous posais la même question, vous y avez déjà plus ou moins répondu, mais quelle place y prend le conte dans votre vie alors, Claire?
Ah, le conte, il a pris une grande place à un moment donné, parce que en tant que conteuse, je crée un spectacle très, très régulièrement, des spectacles aussi pour enfants, mais plutôt des spectacles pour adultes. Et puis, je l'ai tourné dans pas mal de festivals et ainsi de suite. Donc, ça prenait. Et puis, j'ai travaillé avec plusieurs musiciens, mais longtemps avec le même. Donc, ça prenait une grosse place. Et puis, il y avait la découverte des contes aussi. Donc, ça, c'était vraiment... c'est le coffre au fond du grenier dans lequel on n'a jamais fini de puiser, quoi. Avec des histoires tout de suite qui vous touchent, qui vous disent « Oui, j'ai quelque chose à faire avec cette histoire. » Et puis, d'autres qui nous disent rien du tout. Donc ça a été une découverte et un plaisir, un grand plaisir surtout, de les travailler et aussi de les raconter aux gens. Parce que dans les contes, il y a un partage, tout de suite on entend les sourires, on transmet des peurs, des émerveillements. J'aime bien le mot aussi de Lionel Trouillot qui dit « son devoir de merveille ». Et je pense qu'on a tous un devoir de merveille. Et le conte, c'est un peu ça. C'est pas l'histoire qui est toujours belle, qui tout se passe bien, ni rien du tout. Mais on est dans le domaine du merveilleux.
Quand on c'est une question que je voulais vous poser à tous les deux. Quand on se nourrit d'histoires comme ça, est-ce que ça fait grandir? Comme la soupe?
Ben, ça se voit. Moi, je suis très grande. Je mesure 1m50.
J'ai mangé plus de soupe. Est-ce que ça fait grandir? Je pense que ça peut aider à grandir. Ça peut aider à grandir.
Ça dépend dans quel sens on grandit.
Oui. Mmh.
Disons qu'on approfondit certaines choses. Peut-être de soi, de sa découverte aussi de l'autre, parce qu'il y a tellement des histoires différentes, d'autres traditions aussi, et puis des comportements, de tas de personnages dans le conte. Donc, je pense que ça permet une ouverture, en tout cas au monde, une ouverture aux autres. Ouais, c'est sûr, mais je pense qu'avec ça, on grandit.
Oui, disons que je pense que ça peut mettre une couleur, je dirais, à le chemin qu'on prend, quoi. Parce qu'on grandit, je crois qu'on grandit, de toute façon on grandit, hein, de l'instant où on vient au monde, on grandit. Mais par contre, voilà, ça peut mettre une couleur à ce grandissement.
Il y en a qui grandissent mal, hein.
Oui.
Dolibulu, elle met beaucoup de couleurs, elle.
Ouais. Elle aime bien les couleurs, elle s'en fout de ce qui va ou pas. Elle a envie de beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs autour d'elle et la ville est assez grise. En général, donc c'est toutes les rencontres qu'elle fait qui mettent de la couleur et de la chaleur. Elle rencontre des boulangers la nuit, parce que c'est là le cœur chaud de la ville. Donc il y a l'odeur et la couleur du pain qui cuit. Il y a ceux qui aiment vivre dans les arbres, parce qu'ils aiment le creux vert et ils ont envie d'y rester. Oui, il y a de la couleur, oui.
Je vois sur le flyer du Café Bibliothèque de Chabriant, où vous allez jouer vendredi 17 février, que ce conte, c'est à partir de 12 ans.
Oui, c'est parce que c'est pas un conte pour enfants. Bon, maintenant, c'est vrai que les enfants peuvent prendre toujours ce qu'ils veulent dans une histoire. Hein. S'il y a des moments où ça les touche pas, où ils comprennent pas trop, ou quoi, bon, c'est pas grave. Mais c'est un conte pour adultes. Donc, je pense que ouais, les jeunes adolescents peuvent trouver des choses qui leur disent, dans lesquelles ils sont... peuvent être émus, touchés, intéressés, voilà. Mais au départ, c'est un conte pour adultes.
Vous avez déjà joué au Café Bibliothèque de Chabriant ?
Non, jamais.
Non. C'est un endroit qui est assez réduit, assez petit. Il va y avoir une proximité avec le public. C'est quelque chose dont vous avez l'habitude avec le conte ?
Ben les deux, ça m'est arrivé de jouer dans des petits lieux, des petits cafés, théâtres, voilà, où on est très proche. Et puis, bon, si c'est dans des festivals, dans des salles plus lointaines, où parfois il faut un micro-cravate ou des choses comme ça. Mais j'aime bien, moi, être proche parce que, comme je ne vois pas, j'entends les sourires, j'entends les petits frémissements, les étonnements... Les moments de plaisir ou de... Ça s'entend, ça. Donc, c'est vrai que quand on est proche, c'est agréable.
Ouais, c'est un autre moment de partage. L'intimité d'un lieu réduit. Est-ce qu'on a fait à peu près le tour de cette histoire ? Il ne faut pas trop raconter non plus. Hein.
Bah non.
Faut donner envie aux gens de venir vous voir et vous écouter aussi ce vendredi 17 février à partir de 20h30 au Café Bibliothèque de Chabriant. Merci beaucoup à tous les deux.
À 20h30, oui. Parce que oui. Si vous dites à partir, les gens peuvent... Enfin, c'est pas trop conseillé d'arriver en plein milieu de l'histoire, quoi. Donc, sinon...
Vous commencez à jouer à 20h30, donc ils peuvent venir un petit peu plus tôt. En plus, le Café Bibliothèque, c'est un lieu convivial, on peut boire un coup, échanger. Donc c'est à 20h30, le spectacle, vendredi 17 février. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans le studio pour nous raconter ces histoires.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et au plaisir et bon spectacle.
Merci.
Interview.
Okay, the bird.
Interview. L'interview du jour.